Bonjour et bienvenue pour cet épisode 2 du podcast ITcast, nouveau nom de notre podcast de l'infrastructure chez Microsoft France. Donc je suis Pascal Saulière de l'équipe DX Infrastructure Microsoft et je suis avec Stanislas. Salut Stanislas.
Bonjour.
On est en direct par Skype et puis avec Arnaud.
Salut à toutes et à tous.
Salut tous les deux, vous allez bien?
Ça va.
Yes.
Donc, on est jeudi 27 novembre 2014 et on va parler d'actualité aujourd'hui. Donc, d'abord, avant d'attaquer les actualités qui vont nous concerner directement, un petit point sur le podcast lui-même. Donc, comme je disais, il a un nouveau nom, ça y est, il a un nom maintenant. Hein, jusqu'à présent, il n'avait pas de nom, ce pauvre podcast. Donc, il s'appelle ITcast, I-T-C-A-S-T. Et puis, il a un petit site web, donc aka.ms/ITcast. Et évidemment, vous trouverez également les pointeurs sur nos blogs et réciproquement sur le podcast, vous trouvez les pointeurs sur nos blogs. Enfin, vous connaissez l'histoire. Tout ce dont on va parler aujourd'hui sera également récapitulé dans un article sur nos blogs où il y aura tous les pointeurs des infos qu'on va vous donner aujourd'hui. Donc on va parler de Windows Intune, on va parler des nouveautés Azure, on va parler de Windows 10, d'Office 365, on va parler de sécurité. Et puis, on terminera par quelques petits outils divers et variés et quelques petites infos sur les cours MVA, Microsoft Virtual Academy, qu'on a publié récemment en français. On commence ?
C'est parti !
C'est parti !
Alors, d'ailleurs, c'est moi qui commence, donc avec une info sur Windows Intune. Donc Windows Intune, Microsoft Intune, pardon, c'est le nouveau nom de Intune, puisque... Alors pourquoi d'abord Microsoft Intune plutôt que Windows Intune? C'est pour accompagner le fait qu'avec Intune, on ne va pas gérer simplement des appareils Windows, mais des appareils divers et variés et des applications. Donc pas uniquement des OS et des devices, mais également des applications qui vont s'exécuter sur ces devices. D'où le changement de nom. Donc la première info, c'est que ça date du 17-11, donc novembre 2014. On a publié un article sur le blog, c'est l'équipe Intune qui a publié cet article, qui décrit les nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées cette semaine-là, donc entre le 17 et le 19 novembre, avec la nouvelle version de Microsoft Intune qui a été mise en ligne. Donc c'est la magie du cloud, hein, les mises en ligne se font au fil de l'eau. Et donc là, il y a pas mal de nouveautés qui sont sorties avec cette nouvelle version de novembre 2014. Une nouvelle interface déjà, qui est dans les tons beaucoup plus monochrome que précédemment, hein, un peu moins vieillot, donc un petit peu modernisé, avec des icônes bleu foncé, enfin bon, un petit nouveau look. Par contre, c'est toujours du Silverlight, donc pas de changement à ce niveau-là. Donc des nouveautés sur la gestion des devices qui vont avoir l'accès aux boîtes aux lettres Exchange. Une nouveauté que pas mal de gens attendaient, c'est ce qu'on appelle en anglais le bulk enrollment, c'est-à-dire l'enrôlement en masse. L'enregistrement en masse de devices. On a par exemple un parc de tablettes ou de PC qu'on veut enregistrer dans Intune. On va pouvoir le faire directement avec un seul compte de service. Donc ça, c'est plutôt pratique. On a également la possibilité de verrouiller des appareils soit iOS, soit Android avec le système Knox de Samsung. On a des nouveautés également au niveau de la gestion des applications. Donc plusieurs nouveautés au niveau de la gestion des applications, que ce soit le fait de pouvoir cibler des policies par groupe de périphériques, la possibilité de faire des rapports, de bloquer certains types d'applications, ce genre de choses-là, de forcer l'installation ou la désinstallation de certaines applications. On a également quelque chose qu'on attendait depuis que ça existait uniquement sur SSCM et non pas sur Windows Intune, à savoir le déploiement de profils de mail, de certificats, de VPN et de Wi-Fi. Donc la possibilité de le faire si on a uniquement Microsoft Intune en mode cloud. Donc de plus en plus, on a des possibilités qui deviennent à peu près équivalentes entre les deux solutions, soit SSCM, soit Intune. La possibilité de faire du push d'applications du store iOS, de l'App Store d'Apple. Donc du push d'applications gratuites, évidemment. Le push, c'est-à-dire que ce n'est pas à l'initiative de l'utilisateur, mais de l'administrateur. La possibilité également de définir des connexions VPN par application. Je lance telle appli et ça me lance automatiquement le VPN avant de lancer l'appli.
Donc ça, c'est pour les périphériques Android, iOS, hein, iOS, Apple. Ça, c'est une fonction qu'on avait déjà dans Windows 8.1, côté mobile et côté PC. Ouais.
La modification du PIN à distance, du code PIN, pour les Windows Phone 8.1. L'authentification multifacteur lors de l'enrôlement pour Windows 1.1 et Windows Phone 8.1. Et pour finir, des améliorations sur les applications Company Portal, que ce soit au niveau de l'interface utilisateur ou de la customisation possible de cette application. Donc pas mal de choses dans cette mise à jour de novembre. Donc autre annonce intéressante concernant Microsoft Intune, c'est l'amélioration du process d'enregistrement des périphériques de type Windows Phone 8.1. Donc jusqu'à maintenant, on avait obligation de disposer d'un certificat émis par Symantec parce que sur un périphérique Windows Phone 8.1, on ne peut pas étendre la liste des racines d'autorité de certification auxquelles on fait confiance. Et donc, il fallait absolument avoir un certificat émis par Symantec pour signer le portail d'entreprise et les applications qu'on va déployer dessus. Donc maintenant, dans un cas bien précis, qui est le cas où on n'utilise que Intune et donc pas SCCM, et qu'on n'utilise que des applis du store public, donc du Deep Link, ou voire des pages web également, hein, évidemment, parce que là, on n'a pas besoin de signature, on peut se passer complètement de certificat Symantec. Et pour ce faire, on va passer par une version spéciale du portail d'entreprise, qui est une version publique disponible dans le store public de Windows Phone. Donc on télécharge l'application depuis le store, et là on peut s'enregistrer auprès de l'entreprise et puis récupérer les applis du store public via l'application Company Portal, portail d'entreprise. Donc c'est un scénario assez limité, mais qui concerne pas mal de gens, et comme ça simplifie beaucoup l'enregistrement et l'utilisation de Intune sur ses téléphones.
Très bien. Bah, écoute, Pascal, on va rester sur la partie périphérique et puis périphérique connecté à du cloud avec du portail. On a dans Microsoft Azure, dans l'édition premium principalement, la capacité d'offrir à l'utilisateur en fait l'accès à un portail libre service sur lequel en fait l'administrateur IT va venir poser des liens vers des applications de type cloud ou SaaS de l'utilisateur avec une mécanique derrière de single sign-on. C'est tout le bénéfice d'utiliser Azure Active Directory. Donc ce portail est un portail web accessible au travers de n'importe quel navigateur. Désormais, dans les nouveautés qui concernent les périphériques, on a également, qui ont été mis à disposition cette semaine, deux applications, une pour Android et une pour iOS, qui est donc l'application MyApps, qui permet en fait d'accéder aux différentes applications qu'on voyait dans ce portail web, mais cette fois-ci sous la forme d'une application sur équipement Android ou sur équipement de chez Apple. Donc c'est disponible dans les deux stores respectifs. Et donc ça va permettre depuis ces téléphones ou tablettes d'accéder, on va dire, aux différentes applications de l'entreprise en mode single sign-on sans avoir à ouvrir par exemple un autre navigateur. Azure, je crois qu'il y a des choses qui sont nouvelles du côté de Docker, Pascal.
Oui, la ligne de commande qui permet d'aller contrôler Docker et ses containers. Donc cette ligne de commande existe maintenant sous Windows, donc elle a été officiellement compilée et publiée. Donc c'est un exécutable sous Windows. Et cet exécutable, si vous vous souvenez, on l'a déjà vu en démonstration lors du TechEd Europe à Barcelone, hein, c'était Marc Russinovitch, je crois, qu'il l'avait montré. Donc cette fois-ci, c'est officiel, c'est publié. Le développeur de ce programme, de cette ligne de commande, a publié d'ailleurs un article assez intéressant. On mettra le pointeur évidemment dans l'article. Il s'appelle Ahmet Alp Balkan et c'est lui qui a développé qui a compilé la ligne de commande, hein, puisque le code existait et il a fallu simplement le porter sur Windows pour que ça fonctionne.
Donc bonne nouvelle pour les développeurs, effectivement désormais entre Visual Studio qui devient gratuit dans son édition communautaire où on peut développer pour Android, iOS ou Windows, et bien en plus désormais le développeur qui est avec son poste Windows et Visual Studio peut également directement manipuler ses containers avec cette fameuse ligne de commande Docker pour Windows. Ouais, côté, côté Windows, peut-être des choses pour un petit peu côté Windows 10, Pascal ?
Donc, côté Windows 10, effectivement, on a annoncé enfin les nouveautés du store, enfin les grands principes des nouveautés du nouveau futur store de Windows 10, donc du store d'application. Donc, qu'est-ce qu'on a annoncé ? Donc, ça date du 20 novembre. On a annoncé, en fait, trois nouveautés, enfin, trois principes dans le nouveau store de Windows 10. Premièrement, le store sera commun à Windows et à Windows Phone. On y avait déjà fait allusion, donc ce sera le même
oui,
store.
Oui, on parlera d'applications universelles désormais, voilà. Les Universal Apps.
Voilà, donc les Universal Apps pourront être déployées par ce store commun. Ensuite, deuxième principe, c'est que en fait, pour une entreprise qui n'a pas forcément envie ou la possibilité de distribuer des Microsoft accounts, des comptes Microsoft à tous ses utilisateurs pour qu'ils utilisent le store public, on va pouvoir, à l'intérieur du store public, utiliser un store basé sur une page web auquel les gens vont pouvoir accéder avec leur identité de l'entreprise, c'est-à-dire un compte, globalement, dans la pratique, ce sera un compte Azure Active Directory, hein, avec lequel ils vont pouvoir s'authentifier sur ce store, sur cette partie spécifique à leur organisation qui aura été mise en place dans le store, au sein du store public, donc avec une interface web. Donc ils pourront, de la sorte, récupérer leurs applications, être reliés à la licence qu'ils vont utiliser pour leur application, etc., etc. Donc, ce qui veut dire au passage également qu'il y aura un système de gestion des licences en volume pour les applications du store. Ensuite, ceci va être pris en compte dans l'interface MDM de Microsoft Intune pour la gestion sur les périphériques mobiles, par laquelle on va pouvoir gérer ces fameuses licences. Puisque les licences des applications qui vont être installées par les utilisateurs continuent à appartenir à l'entreprise qui les a payées, et donc l'entreprise pourra les supprimer, les désinstaller ou forcer leur installation, etc. En tout cas, gérer ces applications et ces licences sur les périphériques de ces utilisateurs. Donc, des choses qui vont simplifier la vie des entreprises grandement vis-à-vis du store Windows. Ensuite, petit détail, oui, au passage, puisqu'on est sur Windows 10. Windows 10, on a annoncé récemment, cette semaine, je crois, le support de formats de fichiers assez répandus sur Internet, hein, qui sont les formats MKV et FLAC. Donc MKV, c'est un format de vidéo que la plupart des gens connaissent. Et FLAC, c'est un format
d'audio sans compression.
Voilà, sans compression du tout.
On va rester un petit peu dans le cloud. On a parlé un petit peu de Microsoft Intune pour la partie gestion des périphériques et des applications mobiles. On a parlé de Azure avec quelques petites nouveautés en termes de magasins plus d'accès aux applications, là encore, pour les utilisateurs depuis leurs différents périphériques. Un des gros services de cloud qu'on a également, qui est du coup lui aussi en perpétuelle évolution, c'est Office 365. Avec cette semaine deux annonces qui sont assez intéressantes. La première, c'est celle sur Office 365 vidéo. Donc Office 365 vidéo, en fait, c'est un complément de service dans Office 365, pour être plus précis, dans SharePoint Online, en fait. Donc c'est une évolution de SharePoint Online qui va permettre, en fait, aux organisations de créer, je dirais, un portail de type, on va dire un YouTube d'entreprise, pour faire simple. Donc c'est-à-dire un portail de vidéos qui seront mises donc à disposition des collaborateurs. Le tout dans une interface qui est plutôt sympathique, assez épurée, depuis effectivement lequel les utilisateurs pourront les consommer ces différents types de vidéos depuis différents équipements allant effectivement du PC avec un écran assez grand jusqu'au téléphone. On supportera effectivement différents types de formats et l'interface est une interface réactive, donc elle peut s'adapter en fait à la taille des différents écrans pour avoir quelque chose de propre. Ce qui est assez intéressant derrière, en fait, c'est que derrière Office Vidéo, c'est un système un peu à la YouTube, sauf que c'est interne à une entreprise, entre guillemets, hein, ou potentiellement on peut l'externaliser sous la forme d'un extranet. L'idée, c'est effectivement que les utilisateurs vont pouvoir uploader des vidéos et également les consommer. Et en fait, ces vidéos qui seront donc streamées seront streamées en fait depuis notre élément de notre plateforme cloud, qui est un élément qui tourne dans Azure, qui s'appelle Azure Media Services. Donc en fait, on n'a pas réinventé des méthodes pour la partie optimisation et montée en charge et scalabilité de tout ce qui est flux vidéo. En fait, on utilise en fait un bout de la plateforme d'Azure, qui s'appelle donc Azure Media Service, qui est juste pour information le service qui a servi pour servir les vidéos en ligne de streaming des Jeux Olympiques, en fait, des années Jeux Olympiques. Donc, il y avait plus de 6000 heures de vidéos qui ont été diffusées durant 18 jours. Donc, en fait, on bénéficie du coup, en fait, dans Office Vidéo, en fait, de toute la partie Smooth Streaming, c'est-à-dire, en fait, une optimisation du flux vidéo en fonction de la bande passante et de la taille du périphérique. Et puis, bah, le tout, comme c'est du SharePoint Online dans l'Office 365, ça pourrait également être interconnecté, bien entendu, avec la partie Office Graph, et puis, bien entendu, bah, avec Yammer, parce que Yammer fait partie aussi d'Office 365 Vidéo. Sinon, que dire de plus sur cette partie-là? Bah, le player, du coup, fonctionne dans n'importe quelle page ou périphérique. En termes de sécurité, bien entendu, bah, les administrateurs, c'est du SharePoint, vont pouvoir définir qui a le droit de voir quelle vidéo. Hein, là-dessus, aucune complexité réellement. Alors, ce sera activé pour les premiers utilisateurs, les premiers consommateurs, les premiers clients d'Office 365. Donc ça va être activé, il y a une première release qui est en train d'être arrivée, et puis ça va se déployer, on va dire, en début 2015 pour l'ensemble des clients. Ça, c'est un petit peu l'avantage des services de cloud, c'est qu'effectivement, on paye un service, et au fur et à mesure, ce service s'enrichit, en fait, on continue à payer la même chose, en fait. Donc, au niveau des plans ou des différentes versions d'Office 365, globalement, ce sera dans les versions E1, E2, 3, E4. Donc ça, c'est les modèles de licences et de plans qu'on peut avoir. Et on aura également la même chose côté client du monde de l'éducation avec les plans A2, A3 et A4. Donc ça, c'est des choses qui peut être assez intéressant donc sur ce type de client pour Office 365 vidéo. À noter, c'est que il n'y aura pas de coût additionnel en fait pour les clients du fait qu'on consomme Azure Media Service. Normalement, Azure Media Service, c'est un service de cloud qui est indépendant et qui est facturé en fonction de sa consommation. Là, en fait, c'est pas parce que la plateforme Office 365 vidéo consomme en fait Azure Media Service qu'on vous le refacture en plus. C'est intégré dans le prix déjà payé d'Office 365. Voilà pour la petite histoire d'Office 365. Et alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des plans pour le mettre dans la version business, hein, donc pour les petites entreprises? Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Voilà. Mais ça peut changer, hein, c'est le principe du cloud. Voilà, j'ai fait le petit résumé. Donc, en résumé, un YouTube pour l'entreprise basé sur SharePoint Online, voilà, et Azure Media Service.
Super. Bah, une autre petite info concernant Office 365 qui est assez récente également. C'est un partenariat qu'on a annoncé, que Microsoft a annoncé avec Dropbox en début de mois, et qui trouve sa réalisation maintenant avec les nouvelles versions des produits. Donc en fait, ce partenariat porte sur l'intégration de Dropbox avec les applications Office 365 par exemple sur les périphériques mobiles. Vous savez qu'on a maintenant des versions de Word, Excel, PowerPoint pour iOS, pour les iPads par exemple, et puis pour Android, donc sur les tablettes Android. Eh bien, on peut maintenant, à partir de ces applis, sauvegarder nos documents Office directement sur Dropbox, au lieu de, comme c'était le cas jusqu'à maintenant, de pouvoir le sauvegarder uniquement sur OneDrive. Donc on a le choix entre OneDrive et Dropbox. Donc c'est quelque chose qui est super intéressant, parce que malgré toutes les avancées de OneDrive récentes qui en font un produit assez unique en son genre, avec un stockage illimité maintenant quand on est abonné à Office 365, et bien il reste quand même beaucoup d'historique, beaucoup d'existence sur Dropbox, et beaucoup de clients qui utilisent Dropbox encore pour leur fichier personnel. Et donc, faire ceci, c'est super intéressant. Et réciproquement, depuis l'application Dropbox, donc sur les mobiles, on va pouvoir ouvrir directement un document Office, un document Word par exemple, dans la version mobile de Word. Donc, et c'est disponible dès maintenant, hein, quand on prend un iPad ou une tablette Android, on clique sur un document Word par exemple dans Dropbox, depuis l'application Dropbox, on a le choix d'ouvrir l'application. Par exemple sur Android, on aura le choix soit entre le Docs de Google, soit le Word de Microsoft. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir le choix dans toutes ces applications et stockages.
C'est pretty cool. Côté sécurité, Arnaud,
Eh ben, on a annoncé le rachat d'une société israélienne qui s'appelle Aorato, qui commençait à être un petit peu connue sur la place publique pour offrir un logiciel qui s'appelle DAF, le Directory Service Application Firewall, qui en fait permet de détecter les intrusions distribuées sur un système d'information, sur l'Active Directory typiquement. Donc en gros, ça va s'installer sur les contrôleurs de domaine et ça va permettre de monitorer un peu tout ce qui s'y passe et détecter des comportements suspects tels que les attaques contre Kerberos, les attaques contre NTLM, les attaques de type APT, les Advanced Persistent Threat, donc des attaques bien spécifiques et bien ciblées par rapport à des organisations. Donc l'idée de ça, c'est de pouvoir intégrer ces technologies dès l'operating system, dès Active Directory dans une nouvelle version de l'OS. Tout ça pour permettre de mieux protéger nos utilisateurs contre les nouveaux types de menaces contre l'AD. Alors il y a plein d'intelligence par derrière qui est basée sur des technologies un peu semblables au machine learning pour, tu vois, détecter des patterns d'attaques assez classiques en fait.
Là, on retrouve bien un petit peu le pendant de ce qu'on a aujourd'hui dans Azure Active Directory Premium, qui intègre un ensemble de rapports détaillés concernant la sécurité qui se base effectivement sur une énorme volumétrie, une analyse des logs de sécurité liés à un Azure Active Directory, à un tenant de données. Et ça permet de détecter, par exemple, effectivement, des comportements dits suspicieux, comme tu l'as bien dit. Par exemple, l'utilisateur qui, en simultané, se connecte ou quasiment simultané à quelques minutes d'intervalle d'un côté en France et de l'autre côté en Chine, et puis 3 minutes après, il est au Brésil. Ça, normalement, ce n'est pas un utilisateur standard qui doit faire ça. Ça ne doit pas arriver, même après, dans la réalité. Mais on s'est aperçu dans le temps, effectivement, que c'était difficile d'avoir ce type d'analyse, entre guillemets, facile. Donc, dans Azure Active Directory Premium, on a ce moulinage qui est fait par du machine learning derrière et la génération de rapports, effectivement, d'activités suspectes concernant la partie authentification. Effectivement, cette société Aorato a également, du coup, avec ce fameux produit, à peu près cette équivalence, mais cette fois-ci côté, effectivement, cloud privé, de pouvoir détecter effectivement ce type de comportement un peu bizarre. Donc vraiment, c'est l'idée derrière. Alors, je pense que en tant qu'ancien première file d'ingénieur, Arnaud, sur la partie AD, tu as effectivement pu avoir pas mal d'expérience sur ce sujet, que les AD ne sont pas toujours dans un état absolument nickel et ne sont pas forcément très bien analysés en termes de logs, etc.
Mais c'est vrai que les journaux d'événements de sécurité, on en regarde pas souvent, les gens ne regardent pas souvent, il n'y avait pas d'outils qui permettaient de faire ça facilement dans Windows, donc c'est quand même une très très bonne nouvelle, l'arrivée de ce produit qui va consolider ces éléments et puis offrir de l'intelligence surtout par rapport à ça, par rapport à des patterns classiques qui correspondent à des choses qu'on voit maintenant assez couramment. Donc d'après ce que j'en comprends de ce produit, c'est vraiment un filter driver qui va s'installer au niveau de l'Active Directory, donc qui va scruter en fait toutes les opérations qui vont se passer via du moteur de l'Active Directory et qui va consolider tout ça en fait et donc créer une intelligence qui va consolider toutes les infos qu'on va récolter de tous les décès de l'organisation pour pouvoir avoir en fait une vue réelle et consolidée de ce qui se passe dans toute l'entreprise par rapport au service d'identité. Donc ça a l'air plutôt plutôt cool.
Donc on verra dans le futur ce que ça va donner. Et on a que de belles espérances en tout cas. Alors du coup, tu nous as parlé de Kerberos. Il s'est passé des trucs concernant Kerberos cette semaine.
Ouais, on a sorti un petit fixe, ce qu'on appelle un fixe out of band, un fixe en dehors du cycle des patchs classiques de Microsoft tous les deuxièmes mardis du mois. Pourquoi on fait ça? Quand on sort un fixe out of band, c'est qu'on estime qu'il y a une urgence, une menace précise qui est présente sur le marché. Et là, la menace, en l'occurrence, est située autour d'une vulnérabilité dans Kerberos qui permettait à n'importe quel utilisateur classique de devenir administrateur du domaine, ce qui est plutôt embarrassant. Et ce qui était problématique, c'est qu'on commençait à avoir des outils qui permettaient d'exploiter ça très facilement sur Internet. Donc, ce qu'on a décidé, c'est que comme il y avait cette urgence, il y avait cette vulnérabilité, et en plus ces outils qui étaient disponibles maintenant sur Internet, eh bien, on a fourni un fixe qui permet du coup aux organisations de corriger ce problème rapidement. Donc, comme d'habitude, un fixe out of band, on vous recommande de l'évaluer rapidement et puis de l'appliquer dans les 7 jours qui suivent la publication du bulletin de sécurité et du fixe correspondant. Donc on ne saurait trop insister là-dessus. Je crois que très honnêtement, un des éléments les plus faciles à patcher dans une organisation, c'est quand même un contrôleur domaine, puisqu'il est par défaut redondant par toutes les technologies. Donc, il y a absolument zéro excuse pour ne pas appliquer ce correctif.
Oui. Et en général, c'est, le mur est proche, donc c'est pas la peine d'attendre d'être dans le mur pour se dire ah bah finalement on aurait dû appliquer le correctif.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, en plus, la problématique, c'est que à partir du moment où t'as une compromission, le truc est distribué, donc potentiellement les étapes de retour arrière, ça consiste à reconstruire l'ensemble de la forêt. Et ça, c'est pas léger du tout. Ça veut dire en fait tout refaire l'IT quasiment de l'organisation. Donc entre quelques minutes d'installation, enfin de vérification d'installation du patch, environnement de test, une qualification et un passage en prod, et puis tout refaire l'IT, je pense que je prendrai la première solution.
Ouais, malheureusement, certains ne l'ont pas fait, et on voit aujourd'hui des clients qui ont des gros chantiers parce qu'effectivement, ben, ils ont laissé leur AD entre guillemets, se faire avoir au bout d'un moment à force de ne pas appliquer de quantité de sécurité. Donc celui-ci, n'oubliez pas, un utilisateur standard avec les bons outils téléchargés sur Internet peut devenir administrateur du domaine et donc faire des dégâts sur le domaine. Donc, on ne le laisse pas traîner et on l'applique très rapidement.
Autre faille, cette fois-ci au niveau de Flash dans IE qu'on a corrigé de manière récemment. Enfin, il y a un bulletin qui a été publié récemment.
Oui, la mise à jour a dû sortir, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, c'est effectivement dans les dernières versions de Windows, on a des accords avec Adobe Microsoft, et donc on release au travers du processus de Microsoft Update les mises à jour de Flash critiques. Donc là c'est le cas, normalement il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est de laisser effectivement l'installation automatique et en entreprise de valider au niveau du WSUS ou du SCCM ou du serveur de télédistribution l'installation de ce correctif. Là encore, du Flash, il y en a beaucoup sur Internet, c'est pas la peine de trop attendre, c'est jamais une bonne idée de laisser les navigateurs entre guillemets en vieille version.
C'est là qu'on peut rappeler également que sur les serveurs qui sont en mode core, il y aura zéro impact puisqu'on ne va pas avoir besoin de patcher Internet Explorer.
Et puis sur les postes de travail.
Puisqu'il n'y est pas, exactement. Et puis sur les postes de travail, rebooter un poste de travail à cause d'un patch d'IE, c'est pas dramatique. On va parler maintenant, après notre chapitre sécurité, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité sécurité pour cette semaine. Certains outils qui ont été publiés récemment. Et donc le premier. Il s'agit pas vraiment d'un outil, mais c'est la version de novembre de la preview de Windows Management Framework 5.0, WMF 5.0. Et donc, c'est quoi WMF ? C'est en gros la version 5 de PowerShell, avec tout ce qui va avec, donc les mises à jour de WMI, etc., etc., de WinRM. Et donc, les versions se succèdent à un rythme assez soutenu, et on aura une version finale dans la prochaine version de Windows, donc Windows 10 et Windows Server VNext. Arnaud, je crois que tu voulais nous parler d'un outil concernant Remote Desktop.
Un outil carrément cool qui s'appelle Remote Desktop Connection Manager, qui est disponible dans sa version 2.7. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, c'était un outil interne qu'on utilisait depuis pas mal de temps, nous, que certains d'entre vous voyaient durant nos démos dans les Tech Days et autres. Et puis, en fait, on avait un petit peu oublié de le publier au niveau du public, de le mettre sur Internet. Et donc, du coup, on est passé d'une version qui avait été mise à jour, je crois, il y a 3-4 ans la dernière fois, à cette fois-ci une version qui est super à jour et qui permet de se connecter à effectivement plein de consoles remote desktop super facilement avec une vision par groupe de serveurs. Et puis il permet aussi de se connecter directement nativement à un hyperviseur. C'est-à-dire qu'on peut du coup avoir l'accès à toutes les consoles de VM aussi facilement que des consoles remote desktop. Donc ça, c'est carrément cool comme outil quand on administre pas mal de serveurs, comme c'est de plus en plus la tendance dans les organisations, on a de plus en plus à faire. Autre outil, c'est pas vraiment un outil là, c'est une petite application, une application qui est présente sur Windows Phone, qui s'appelle Operational Insight. Azure Operational Insight, en fait, c'est un service qui va permettre de faire du monitoring et de l'intelligence de ce monitoring dans Azure. Donc en gros, on va monitorer des serveurs dans votre infrastructure et puis le service dans Azure va consolider ces informations, vous faire des recommandations par rapport à votre environnement. Et puis globalement, la nouveauté, c'est qu'il y a une application pour le téléphone. Du coup, on peut faire l'administration de ces serveurs directement depuis le téléphone, regarder les analyses prévisionnelles de capacité, regarder les changements qui ont été effectués dans la configuration, d'installation, regarder la conformité par rapport aux exigences de sécurité d'un environnement. Donc c'est plutôt cool, on peut faire ça depuis le téléphone. Impeccable, quand on a un beau Nokia 15-20, on peut gérer toute l'infrastructure depuis un grand bel écran.
Voilà l'usage.
Et oui, Arnaud,
plus,
ouais. Voilà. Un peu de publicité, Arnaud ne fait jamais de mal.
Exactement.
Alors, ben, du coup, puisque tu es sur Windows Phone, je vais rebondir avec le dernier outil de la semaine ou du podcast. C'est le client Terminal Server ou Remote Desktop Client pour Windows Phone 8.1 qui a reçu cette semaine une mise à jour, donc il est passé en 8.1.6. Et qu'est-ce qu'apporte principalement cette version? Eh bien, c'est que désormais, on peut également connecter le Windows Phone au service de bureaux à distance qui sont dans Azure, qu'on appelle les Azure Remote App. Donc désormais, du coup, depuis le téléphone, on peut directement se connecter soit à des PC avec le bureau à distance, soit à des serveurs de terminaux dans l'entreprise, soit éventuellement à des services désormais dans Azure, donc les fameux services Azure Remote App. Ça marche plutôt pas mal, et donc du coup ça permet d'exposer sur un téléphone, alors s'il a une grande taille telle qu'un 6 pouces avec le Nokia 1520, ça permet du coup d'exposer ses applications en mode extranet par exemple directement sur un Windows Phone. L'application marche plutôt pas mal, donc c'est vraiment le petit update qu'il y a eu et qui manquait actuellement à cette version. Voilà, on termine ce podcast par la partie des cours MVA.
Ben, un florilège de cours MVA disponible. Il y en a pas mal qu'on a mis en ligne récemment. Tu parlais de Microsoft Intune tout à l'heure, Pascal. Ben, il y a un cours complet qui permet de revoir les basiques du déploiement et de sa mise en œuvre. Mm-hmm. Donc ça, c'est un des cours qui est disponible. Aussi, un cours sur SQL, la disponibilité dans Azure, qui est fait par notre ami Franck. Et puis, quelques autres régalades. Notamment concernant la migration depuis, je crois, un Operating System Server qu'on va bientôt retirer.
Oui.
Je ne sais pas si on a entendu parler de ça.
Windows Server 2003, fin du support le 14 juillet 2015. Et donc, si vous avez encore des machines physiques ou virtuelles faisant exécuter ce système d'exploitation, donc 2003 ou 2003 R2, il va falloir penser effectivement rapidement à un petit projet de migration ou à une montée de version. Donc, on a résumé en à peu près 3 heures. Les grands points à faire dans une migration, les grandes étapes, il y en a 4, et puis également quelques outils, et on en parle également dans cette formation la montée en version de quelques-uns des services les plus communs et probablement les prioritaires, c'est-à-dire tout ce qui est Active Directory, service de réseau, service de fichiers, de serveur de fichiers, et puis tout ce qui est imprimante. Voilà. Donc ça vaut le coup d'y faire une première passe. Si vous n'avez pas encore commencé à vous pencher sur le sujet, on va dire qu'en 3 heures, ça vous dépeint un petit peu comment va se passer et se dérouler votre projet. Et ça vous montre également certains outils, parce qu'en fait, dans Windows Server, on ne sait pas toujours, mais dans les nouveaux Windows Server, il y a également les outils qui permettent de migrer les paramètres et les configurations et les données des ancienne version vers la nouvelle, et on vous explique tout ça durant ce cours de la Microsoft Virtual Academy.
Et puis je vais peut-être heurter votre modestie à tous les deux cette année, Arnaud, mais la semaine prochaine sort un nouveau cours également concernant le réseau pour les administrateurs Windows, donc entièrement conçu et réalisé par conçu par Arnaud, je crois, et puis réalisé par vous deux, si je ne me trompe pas.
Alors c'est vraiment un cours qui est à destination des débutants en réseau. À part peut-être les derniers modules qui peuvent être effectivement regardés par des administrateurs assez à l'aise sur le monde du réseau, parce qu'ils sont un peu plus techniques. Mais les premiers modules sont vraiment pour une découverte du réseau du monde IPv4. Hein. Une version IPv6 arrivera plus tard. Arnaud, je ne sais pas si tu veux rajouter d'autres éléments sur ce magnifique cours. Hein.
Oh non, mais ça fait toujours du bien de se rappeler comment fonctionne une négociation de session TCP, les différents champs, à quoi ça sert. Enfin, toutes ces petites choses-là, ça fait du bien de s'en rappeler. Si on a vu ça à l'université il y a très longtemps, bon, c'est toujours un petit refresher qui est assez intéressant. Et puis surtout, en fait, c'est super orienté pratique, hein, ce cours. C'est de se dire, bon voilà, on administre un réseau Windows, qu'est-ce que j'ai comme outil à ma disposition pour vérifier qu'effectivement une connexion TCP, elle se fait bien, qu'est-ce que je peux utiliser pour faire des traces réseau, comment j'analyse basiquement une trace réseau. Enfin, c'est très, très pragmatique, hein, c'est pas un cours universitaire du tout.
Oui, c'est même d'ailleurs plutôt bon enfant. Hein. Oui. Les modules sont bien détachés, donc vous pouvez consommer ça de manière relativement espacée, module par module, en fonction de votre temps libre. Pascal, le mot de la fin.
Eh bien voilà, pour terminer, merci à vous deux, merci à ceux qui nous écoutent. On se retrouve exactement dans 2 semaines. Et je voulais simplement rappeler que un des moyens les plus rapides de nous contacter ou de suivre un petit peu notre actualité, c'est Twitter. Donc moi, le mien, c'est Pessolière. Stan, c'est, je crois, Esquastana. Hein, c'est Esquastana. Et puis Arnaud, c'est Arnaud Lheureux. À tout attaché. Et puis cet ITcast, oui, sur aka.ms/ITcast. Merci à tous. Merci Arnaud, merci Stan, et puis
à bientôt.
Week-end.
Au revoir.